Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui a dit que la Bible était une sorte de lettre morte? Difficile pourtant, quand on n'est pas familier des Écritures, d'y trouver les leçons de vie que l'on voudrait. Pour nous aider à porter sur l'Ancien et le Nouveau Testament, à notre regard, cette série d'émissions sur les femmes dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une guerrière à sa manière, une juive qui libéra son peuple avec charme, force et confiance, et j'ai nommé Judith. Les femmes dans la Bible, troisième, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec, pour nous accompagner, vous Bernadette Escaffre, vous êtes bibliste, ancien professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse et dans le cadre de la faculté de théologie et dans le cadre de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Bonjour.
Bonjour.
Merci de faire un détour par nos studios. Les femmes dans la Bible, c'est donc une série de conférences que donne la faculté de théologie au long de cette année. Je vous donnerai la prochaine date à la fin de l'émission. Et donc, on en profite. Et ce matin, donc, on va se pencher sur une autre figure, Judith. Et votre sous-titre, c'est « Remake au féminin de David contre Goliath ». Avant ça, comme à chaque fois...
Avec un point d'interrogation.
Point d'interrogation, pardon. Avant ça, comme à chaque fois, puisque chacun des intervenants nous sert un peu de... on va dire d'aîné dans l'approche des Écritures. Quand on a passé sa vie comme vous à essayer de scruter les Écritures et à en trouver des grandes leçons de vie, comme on le verra pour cette figure de Judith, ça vous fait mal au cœur de voir qu'il y a si peu de chrétiens qui arrivent ou qui osent ouvrir leur Bible ?
Oui, c'est vrai. Mais ce qui me fait plaisir, c'est d'en voir qu'il y en a beaucoup aussi qui l'ouvrent et qui la lisent et qui sont enthousiasmés. Hein, donc, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Parce que moi-même aussi, je suis enthousiasmée par la Bible. Plus je lis la Bible et plus je trouve que c'est passionnant parce que c'est une parole vivante et qui nous donne vie quand on la lit. C'est pas n'importe quelle parole, n'importe quel écrit ou récit dans la Bible, mais ce sont des récits qui nous donnent vie, qui nous disent une parole vivante, une parole du Seigneur.
Comment ça vous est venu, vous, j'avais posé la question à mon invité aussi la fois dernière, de vous plonger comme ça dans les Écritures? Est-ce qu'il y a, je sais pas, comme la conversion parfois, un moment où la Bible est devenue une parole vivante pour vous?
Eh bien, je ne peux pas dire qu'il y a un moment donné, mais disons aussi loin que je remonte dans ma vie, même toute petite, je voulais connaître mieux Jésus. Donc ça partait de Jésus, et donc je voulais connaître les évangiles et les comprendre, essayer de les comprendre. Et donc bon, quand j'étais gosse, j'avais peut-être pas l'occasion de vraiment approfondir les textes bibliques, mais après quand j'ai pu, j'ai commencé des études de théologie et de Bible, et puis je me suis spécialisée en Bible, et je regrette pas d'avoir fait ce choix parce que c'est vraiment la Bible, c'est un livre, et ce sont des livres différents et qui ont tous les styles et qui nous disent chacun à sa façon, nous disent à la grandeur de l'être humain et de Dieu qui s'approche de nous, qui veut nous donner sa vie, la connaissance de Jésus qui est venu marcher sur nos chemins et nous montrer le chemin et qui à travers toute sa vie nous montre le chemin de vie. Et donc c'est enthousiasmant et c'est, moi je suis émerveillée quand je vois, parce que pour moi aussi ça a été quand je découvre les récits, même quand j'en connais, il y a certains récits ou par exemple les évangiles que j'ai relus, mais à chaque fois c'est nouveau, c'est pas une parole qui est passée, c'est une parole vivante, toujours présente.
Alors ce matin donc on va se pencher sur un livre, c'est le livre de Judith, donc c'est un livre de l'Ancien Testament. On va commencer par raconter l'histoire, il faut commencer par je vais parler pour commencer du roi Nabuchodonosor qui donc veut devenir, on va dire, le maître du monde ou le roi du monde et qui pour ça, on va dire, utilise les grands moyens. Est-ce que vous pouvez nous poser peut-être le contexte avant de nous dire s'il est réellement historique ou pas, le contexte historique qui est décrit en tout cas?
qui est décrit. Alors, c'est vrai qu'on parle d'abord, ça commence par finalement Nabucodonosor, c'est un roi dont on a entendu parler, et donc il est présenté comme, comme vous l'avez dit, celui qui veut être le roi de la terre, qui veut tout dominer, et même plus que je pense que le roi, il veut au fond être vénéré comme un dieu. Voilà, et donc l'histoire se base au départ sur un roi qui a existé, Nabucodonosor, mais à partir de là, elle va raconter toute une histoire qu'on ne peut pas vérifier par ailleurs. Et donc ce qui est, c'est important de voir ça quand on va lire ce livre, c'est que ce roi, Nabucodonosor, il veut être le dieu. Il veut tout éliminer pour que lui seul soit vénéré. Et donc il va tout faire pour cela.
Alors pour ça, il envoie donc Holoferne.
Voilà, alors c'est son général en chef, Holoferne, qui s'appelle. Et donc il l'envoie pour, parce que donc Nabucodonosor, on le situe en Mésopotamie. Il est à Babylone et enfin le livre le situe à Ninive, donc c'est déjà un peu une époque différente, et il envoie donc son général en chef qui il lui donne tous les pouvoirs de prendre des centaines de milliers de soldats et même des masses de gens qui vont les accompagner aussi pour participer au massacre, et il l'envoie pour soumettre tous les peuples de la terre. Voilà. Et alors, ce qu'on voit, c'est que quand Holoferne part, il part pour dominer, mais cette domination va être une domination avec des massacres et des génocides. Et donc, on le voit, par exemple, il arrive à un endroit, c'est l'époque des moissons, et il brûle tous les champs, et il détruit les troupeaux, etc.
On peut citer un passage, hein, tu sortiras à l'attaque de toute la terre à l'Occident, parce qu'ils ont désobéi à la parole de ma bouche, leurs blessés rempliront les ravins, tous les torrents et les fleuves seront remplis à déborder de leurs morts, j'emmènerai leurs captifs jusqu'au bout de la terre entière, quant aux insoumis, ton œil ne les épargnera pas, les livrant au massacre et au pillage dans toute la terre.
Voilà, oui, donc ça c'est l'exemple, enfin on voit ce qu'il y a. Et alors ce qui est encore important de voir et de se rendre compte quand on lit ce livre, c'est que les populations, par exemple, population de la côte, qui est par exemple ce qui correspond à Tyr et Sidon, actuellement le Liban, les populations de la côte, quand elles entendent ce qu'il a fait déjà dans les autres endroits où il est passé, ces populations, elles ont peur et elles disent, bon, on va se soumettre. Et donc, elles veulent se soumettre et elles l'accueillent avec des chants, des danses, enfin, et elles lui disent, ben voilà, tout est à toi. Ils l'accueillent vraiment d'une façon positive, pour qu'il ne les massacre pas. Et malgré cela, il va massacrer les populations et donc tout détruire. Donc on voit bien que ni par la force, ni par l'accueil, essayer de l'amadouer, ça peut marcher. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera massacré. Et donc c'est vraiment ce désir de Nabucodonosor qu'il a imposé à Holoferne, enfin, et que Holoferne accepte de mettre en pratique, c'est d'exterminer tout le monde pour vraiment avoir des personnes comme des esclaves à ses pieds.
Quoi. Alors il se trouve qu'en l'occurrence, donc, Holoferne apprenant donc, ce que les habitants, pour continuer à poser le décor de l'histoire, apprenant l'attitude des habitants de Tyr et de Sidon, demande en fait plus d'informations, si j'ai bien compris, hein, sur ce peuple, et c'est un certain Achior qui le renseigne.
Oui, voilà. Alors, parce que donc,
on va arriver à Judith. Hein.
Oui, voilà. Et donc, en Judée, les gens, quand ils apprennent ce qu'il a fait, Holoferne et ses troupes, ils ont peur. Mais ils ne veulent pas se soumettre, parce que se soumettre, ça serait accepter l'idolâtrie et devoir rendre un culte à Nabucodonosor. Or, ils veulent rester fidèles à leur foi. Et donc, ils ne vont pas se soumettre, et Holoferne, il apprend ça, et donc il est encore plus outré, et il veut vraiment tous les massacrer. Qu'est-ce qu'ils font ? Holoferne, quand même, il s'informe, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce peuple qui ne veut pas se soumettre à Nabucodonosor, et à mon armée. Et donc, il s'informe. Et là, c'est là qu'intervient Achior. Achior, c'est un des chefs du peuple ammonite, qui est un peuple, disons, frère, mais frère ennemi un peu du peuple d'Israël. Et Achior, il vient pour donner des informations, puisque Holoferne, il a demandé aux gens de la région de donner des informations sur ce peuple, donc le peuple de Judée. Et donc, il vient pour donner des informations. Et là, il y a une part d'ironie dans le texte, c'est que celui qui n'est pas du peuple d'Israël, du peuple de Judée...
Il dit, fais attention à eux, parce que leur Dieu pourrait leur donner...
Oui, voilà.
Raison.
Oui, voilà. Et donc, ce qu'il fait, il fait tout un discours en racontant un peu l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est intéressant parce que lui, il n'est pas du peuple d'Israël, mais il a l'air de bien connaître. Et il montre une des clés de la lecture de l'histoire du peuple d'Israël, c'est que quand le peuple est fidèle, on ne peut pas le vaincre. C'est quand il est infidèle qu'alors il est vaincu. Et là, derrière, il y a un peu l'idée de l'exil à Babylone, où dans l'histoire d'Israël, l'exil, ou dans les livres de la Bible, l'exil de Babylone a été compris et interprété comme une punition parce que le peuple a été infidèle. Et donc, ils ont eu l'exil. Alors, Achior, il fait cet éloge du peuple d'Israël et il dit à Holoferne, il lui donne la clé pour pouvoir les vaincre. C'est-à-dire, attends qu'ils soient infidèles et tu les vaincras facilement. Mais Holoferne ne va pas écouter Achior, et au contraire, il va... parce que Achior lui a dit des choses qui ne lui plaisent pas à lui, et donc il va emprisonner Achior et le donner à la vindicte des Judéens, en pensant que les Judéens, quand ils vont le voir, ils vont le tuer, voilà. Oui.
En tout cas, donc Holoferne donc assiège la ville. Mm-hmm. En l'occurrence, c'est la ville de...
Alors, c'est la ville de Béthulée.
La ville de Béthulée. Et donc, voilà,
La ville de Béthulée, il faut dire, c'est une ville qui est comme un peu le verrou pour Jérusalem. C'est-à-dire, si la ville de Béthulée tombe, Jérusalem est prise. Hein, donc c'est important le rôle que peut jouer cette ville-là, pour, si elle se maintient, Jérusalem pourra éviter la fin, la destruction.
Alors quid de Judith, donc cette femme donc, est une veuve, et c'est elle donc, qui va sauver son peuple. Alors racontez-nous ce qu'elle fait.
Alors, elle habite à Béthulie, donc cette ville que par ailleurs on ne connaît pas, enfin on ne sait pas où elle est, c'est un peu, disons, une ville inventée quoi, pour l'histoire. Et donc Judith est dans cette ville, c'est une veuve, elle est riche, donc c'est un peu exceptionnel. Dans la Bible, les veuves en général sont présentées comme pauvres. Elle est riche, elle a une réelle richesse, et elle peut peut-être avoir un peu le droit à la parole. Et face aux responsables de la ville, elle va montrer son autorité et elle va intervenir alors qu'ils sont tous, ils ont tous peur parce qu'ils disent on va pas s'en sortir parce que Holoferne est trop puissant et aucun peuple n'a pu l'arrêter. Donc nous, notre petite ville, on va pas s'en sortir. Et donc il prie Dieu, mais il en demandant en donnant des limites à Dieu, il dit s'il n'intervient pas, on va se rendre à Holoferne. Donc il n'y a pas d'issue possible. Et elle est la seule qui, dans cette situation où on dit c'est la mort, soit on se soumet à Holoferne, et de toute façon ça sera la mort, elle intervient et elle redonne espoir.
Alors qu'est-ce qu'elle fait?
Alors elle fait une chose et elle le fait seule. Enfin seule, elle va avec sa servante, mais elle fait pas un plan avec les autres. Elle prie, elle est fidèle, et elle dit aux responsables de la ville, elle leur dit « Je ne vous dirai pas ce que je vais faire, mais laissez-moi le faire. » Et donc elle va aller dans la...
chez l'ennemi.
Chez l'ennemi, voilà, elle va aller trouver Holoferne. Donc elle sort de sa ville, elle va trouver Holoferne, et elle va parler avec lui, et elle va le convaincre, enfin, en lui disant... Elle fait un peu, d'une certaine façon, un peu le discours qu'avait fait Achior, Mais autant Achior avait été refusé, il avait été persécuté et emprisonné, et elle va être bien accueillie.
Alors, donc là, pour c'est... ça, elle a ses charmes aussi, non ?
Oui, oui, oui.
Le donc, charme d'être une belle femme, semble-t-il.
Oui, voilà. Mais,
donc
mais...
elle essaye de tourner la tête à Holoferne.
Oui, voilà.
Et elle s'en et sert elle... comme ça.
Oui, voilà. Alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas seulement belle, elle est sage. Et donc c'est ça. Et puis fidèle aussi. Et donc c'est vraiment une personne qui est fidèle au Seigneur. Et donc c'est ça qui joue, c'est-à-dire c'est pas seulement, elle ne joue pas seulement sur son charme, mais elle va utiliser tout ce qu'elle a à portée de la main. Elle peut pas gagner la victoire contre Holoferne avec les armes, et elle va la gagner d'une autre façon. C'est ce qu'elle va essayer de faire.
Donc vous voulez pas nous raconter la fin ? Peut-être qu'il faut qu'on se la garde, si. Si, racontez-la.
Pour lire le... Alors, on va... De toute façon, on doit y
peut-être
arriver.
Peut-être donnez-nous juste la fin, parce qu'après, on y reviendra pour
commentaire. Oui, voilà,
donc
elle va finalement pouvoir entrer dans le camp. Elle est bien reçue. Et puis, finalement, elle va arriver à couper la tête d'Holoferne. Pardon, oui, d'Holoferne, c'est ça. Et elle l'a ramenée dans sa ville. Voilà, et donc à partir du moment où Holoferne est décapité, c'est l'armée qui est décapitée, et ils n'ont plus d'unité, et ça va être la débandade. Et donc c'est comme ça qu'elle a pu vaincre l'ennemi, et la ville va être libérée. Alors c'est non seulement c'est la ville qui a libéré, mais c'est toute la région, et puis non seulement toute la région, mais ce sont toutes les populations d'alentour et de toute la terre de l'époque qui sont libérées, parce que comme le but de Nabucodonosor c'était d'arriver à soumettre la terre entière. Son armée a été vaincue, et il ne pourra pas arriver à ses fins.
Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on fasse une première pause, ce que la tradition dit de ce livre, on va dire tant catholique peut-être que du côté de nos frères juifs ?
Alors, ce livre, vous dites au niveau de sa place dans la Bible, hein, par exemple, parce que donc c'est un Bible qui nous a été transmis seulement en grec. Il a été écrit vraisemblablement en hébreu avant, mais il a été transmis qu'en grec, et donc il n'est pas entré il n'est pas dans le canon de la Bible hébraïque. Donc, nos frères juifs n'ont pas ce livre comme un livre considéré comme inspiré. Ils ne l'ont pas dans leur canon, dans leur Bible, dans la Bible du peuple juif. Il n'y a pas ce livre. Ce livre-là n'est pas non plus dans le canon des protestants, par exemple, qui ont, quand ils ont choisi leur canon ou défini leur canon, ils ont pris que les livres qui avaient été transmis en hébreu. Et voilà, leur canon pour l'Ancien Testament correspond à la Bible du peuple juif. Et donc c'est les chrétiens.
Même du côté des catholiques, en fait, parfois.
Alors du côté des catholiques.
Vous dites que les pères de l'Église étaient un peu partagés sur ce.
Oui, c'est-à-dire là au début, les pères de l'Église, il y en avait qui étaient pour l'accès dans le canon, enfin qui les considéraient comme inspirés, et d'autres qui pensaient qu'ils n'étaient pas inspirés. Et donc il y avait des opinions différentes, et finalement ça a été défini au Concile de Trente que le livre de Judith et d'autres livres, ils faisaient partie du canon. Donc c'est un livre qui a été un peu discuté. Mais finalement, il est dans le canon. Et donc, s'il est dans le canon de la Bible catholique, il nous faut voir aussi s'il a vraiment, il n'est pas là par hasard, quoi. Et donc, il y a quand même, même si c'est un livre qui peut nous choquer de voir qu'une femme, elle décapite un homme, et c'est ça qui est présenté comme l'héroïne qui fait un geste comme ça, il y a quelque chose d'un enseignement qui est à voir. Et donc, c'est ce livre-là a son intérêt dans la Bible. À sa place.
Et ben c'est ce qu'on va voir. On va faire une première pause et puis on va retrouver, on va parler un peu plus de ce texte, de cette figure de Judith et de ce qu'elle peut nous dire. Donc je rappelle le titre de votre conférence en l'occurrence. Donc c'était dans le cadre du cycle sur les femmes dans la Bible. Je donnerai à la fin de cette émission la prochaine conférence. Thank you.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec pour nous accompagner Bernadette Escaffre. Vous êtes bibliste, ancien professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse, tant pour la faculté de théologie que pour l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Et avec vous, donc, on parcourt ce matin le livre de Judith avec ce sous-titre qui est de vous, Remake au féminin de David contre Goliath, point d'interrogation. Si on continue donc à se pencher un peu plus sur ce texte avant de se pencher sur la figure de Judith, quid de faut-il prendre ce texte au pied de la lettre? Quelle est la part d'histoire vraie ou de fiction, Bernadette Escaffre?
Alors, si on dit il faut prendre au pied de la lettre, je dirais peut-être oui, mais dans un sens seulement, c'est-à-dire il faut lire le texte tel qu'il est, ça c'est une chose, mais prendre comme une vérité historique, c'est-à-dire que ça s'est passé exactement comme ça dans l'histoire, ça ne peut pas marcher comme ça, et parce que ce livre-là, le livre de Judith, on voit que quand on lit le récit, qu'il mélange plusieurs époques historiques. Alors on pourrait dire, mais ce récit tel qu'il est raconté, à quelle époque il se passe ? On parle de Nabucodonosor, donc Nabucodonosor, c'est l'époque des Babyloniens. On nous dit qu'il est empereur des Assyriens. Les Assyriens, c'était un peuple qui était antérieur, un empire antérieur à Babylone et à Nabucodonosor. Et puis, dans le texte lui-même, il est question de Perse, où on voit peut-être ça pourrait être l'époque perse, parce que il est question du retour de l'exil, c'est-à-dire après Babylone, après que quand les Perses ont étendu leur empire, et donc Babylone n'était plus l'empire important. Et donc, il
y a plein d'anachronismes, c'est ça?
Oui, c'est ça, des anachronismes. Donc on se dit, mais alors à quelle époque ça se passe? C'est une histoire qui peut pas qui ne s'est pas déroulée comme ça. Voilà. Et donc on voit à travers ça que finalement, cette œuvre-là, ce n'est pas une œuvre qui veut raconter simplement des faits historiques, mais qui veut raconter quelque chose en prenant différentes étapes de la vie du peuple juif pour enseigner, pour donner un message et un message d'espérance. Et on voit que d'après ce qu'on sait et qu'on voit dans le texte et par ailleurs, que ce livre-là, il aurait été écrit à une période beaucoup plus tardive, enfin plus tardive en tout cas que les Assyriens.
Oui, donc vous faites une différence entre le temps de l'histoire écrite,
oui,
et
oui,
le temps de l'écriture de l'histoire.
Oui, voilà. Et donc le temps de l'écriture de l'histoire, ça serait au temps des Séleucides, c'est-à-dire au moment de l'Empire grec, mais après la mort d'Alexandre le Grand, où les Séleucides donc sont, et même bien après, c'est-à-dire quand les Séleucides, c'est-à-dire une partie de l'Empire grec, avec Antiochus Épiphane, ils ont voulu dominer à Jérusalem, ils ont voulu imposer leur dieu, les dieux grecs, à Jérusalem, où ils sont entrés dans le temple et ils ont imposé donc des sacrifices impurs, donc et le culte, ils interdisaient aux juifs de pratiquer leur foi, leur religion, dont en particulier la circoncision était interdite. Les personnes qui pratiquaient la circoncision, elles étaient tuées. Les femmes qui faisaient circoncire leurs enfants, on les tuait. Et ceux qui mangeaient aussi la nourriture, donc suivant les normes de la cacheroute, enfin des nourritures cachères, et ils étaient persécutés. Voilà, donc c'était interdit. Et donc derrière le livre, il y a tout ça, c'est-à-dire cette situation-là, et que faire là-dedans ? Laisser l'Empire grec, disons, mettre son empire, son emprise sur Jérusalem et sur le Temple, c'est abandonner la foi dans le Dieu d'Israël, et c'est aller vers la mort.
Alors après, vous voulez vous arrêter sur le texte et souligner donc différents aspects de ce texte, l'ironie, l'exagération, les paradoxes. Si on commence par l'ironie, vous preniez tout à l'heure un ou deux exemples. Par exemple, ce fameux Achior, l'ammonite qui conseille le fameux chef de guerre Holoferne et qui, contrairement à ce qu'Holoferne attendait, en fait, fait l'éloge de ce peuple juif.
Oui, voilà. Oui. Oui, donc c'est ça.
Pourquoi c'est important de souligner cette ironie? Est-ce que vous pouvez nous prendre un ou deux exemples?
Oui, parce qu'on n'est pas dans un livre qui voudrait être sérieux. Il joue sur l'ironie, un peu comme quand on fait une caricature. Et donc on voit bien que la caricature, elle veut montrer des choses, mais elle se situe à un autre niveau. Elle exagère certains traits, mais elle cherche pas la réalité en soi. Hein. Et donc là, l'ironie, elle veut montrer que ce texte-là, ce n'est pas une invitation à la violence, c'est-à-dire ce n'est pas un livre qui encourage la violence, mais c'est un livre qui veut montrer, dans une situation où il semble ne plus y avoir d'issue, il faut voir que dans l'histoire, il y a des moments d'ironie qui permettent finalement de trouver une issue.
Autre exemple peut-être, un autre moment d'ironie, ce serait quoi?
Alors, l'ironie aussi, ça serait par exemple le fait que ce soit une femme, une veuve, hein, donc et qui n'a pas d'autorité. Personne a pu, ou une personne ne peut vaincre Holoferne, et c'est une femme veuve qui le fait.
Rappelez ce qu'une veuve était peut-être aussi en
veuve,
Israël.
D'ailleurs, dans une société patriarcale, la femme n'a pas d'autorité en elle-même, elle est toujours normalement sous l'autorité soit de son père quand elle est petite, soit de son mari quand elle est mariée, et quand elle est veuve, elle est sous l'autorité de son fils aîné ou autre. Et là, elle est présentée comme veuve, elle n'a pas d'enfant, donc disons c'est une personne qui n'a pas de postérité et dans une situation de socialement complètement démunie, on pourrait dire, et c'est elle qui va sauver. Donc cette ironie-là, on voit qu'elle, qui ne pourrait rien, en réalité, elle y arrive et elle gagne la victoire. Donc c'est un livre qui veut parler d'espérance et pas de violence. Et quand il parle de la violence, il montre que la violence, c'est celle de Nabucodonosor et celle d'Holoferne qui veulent détruire le monde entier pour le mettre au service d'un roi qui se veut un dieu.
Alors l'exagération, c'est celle que vous venez de citer, entre autres, hein, donc un roi qui veut dominer la terre, l'ampleur des massacres qui sont perpétués. Qu'est-ce que vous souligneriez d'autre à propos de l'exagération, s'il y a quelque chose un peu d'hyperbolique ou de symbolique dans ce récit?
Par exemple, là vous avez, c'est au chapitre 2 du livre, verset 19, on nous dit que donc le Holoferne, il est parti avec eux, partie une masse nombreuse comme des sauterelles et comme le sable de la terre, car on ne pouvait les compter à cause de la multitude. Donc là on présente, c'est vraiment il y a une masse énorme qui vient, enfin de personnes, et en plus des 120 000 militaires qui étaient sous les ordres de Holoferne. Donc il y a une exagération dans la présentation de l'armée pour dire cette armée, elle est invincible. Et en plus, peut-être, il y a comme un clin d'œil, peut-être, avec le fait qu'on nous parle du sable de la terre dans la pensée biblique. Le sable de la terre, ça fait penser à Abraham, la descendance d'Abraham. Et là, ce n'est pas la descendance d'Abraham dont il est question, mais c'est l'armée. Enfin, tout ce nombre incommensurable de personnes qui sont hostiles et qui viennent s'attaquer à une petite ville de Judée.
Les paradoxes, peut-être très rapidement, parce qu'il va falloir qu'on passe à la figure de Judith, je peux les citer à votre place, hein, vous l'avez dit, c'est que c'est une veuve marginalisée et pauvre qui va sauver son peuple. On a parlé de la figure d'Achior, donc qui a conseillé Holoferne. Bon, je propose peut-être qu'on avance. Alors le personnage de Judith, donc on a compris à vous entendre que ce récit en fait avait une valeur en partie symbolique. Donc l'héroïne du récit est comme la représentante de tout le peuple. Voilà, c'est quoi? Ça fait partie de ces figures de femmes dans l'Ancien Testament qui représentent Israël d'une certaine manière ou...
Oui, là on pourrait dire qu'elle représente, parce que donc Judith, ça veut dire juive. c'est le nom juif. Donc c'est, elle a, au fond, elle représente un peu le peuple juif. Hein, voilà. Donc, et d'ailleurs, on pourrait avoir le nom de juif est donné aux juifs, est donné donc au peuple d'Israël après l'exil. Donc là, le nom aussi de Judith situe le peuple après l'exil à Babylone. Et donc elle est disons, elle est un peu comme un type, je veux dire, dans le sens d'une.
Typée.
Voilà, comme représentante de son peuple, un archétype, voilà, comme représentante de son peuple. Et c'est dans ce sens-là, elle, en tant que femme et veuve, elle représente un peu le peuple dans sa situation de pauvreté. Hein, voilà, et de non. Comment dire, elle est. Elle n'a pas d'enfant, donc ça peut s'arrêter là, vous voyez. Donc, elle représente ça, mais le livre va nous montrer qu'elle trouve une issue, là où personne ne pouvait trouver une issue.
Alors, tout à l'heure, on m'avait dit c'est une femme qui est belle, sage et fidèle. Alors, si vous deviez vous arrêter sur chacun des points, et quelle importance ça a? Belle, c'est, si on commence par ça, en l'occurrence, donc, ça lui sert, parce qu'on ne l'a pas tout à fait dit dans le récit, mais
oui,
elle charme Holoferne.
Oui, voilà. Oui.
Et du coup, y a, on va dire, allez, on va venir de manière très triviale, il y a un peu une soirée arrosée, hein,
oui, voilà,
où Holoferne abuse de bon vin, et c'est ce qui lui permet après donc, de le tuer.
Oui, oui,
la beauté, ça dit aussi quelque chose de la beauté du peuple juif, justement. Enfin, elle représente son peuple, là aussi, ou...
Oui, oui, si on veut. C'est-à-dire... Alors, je ne sais pas si vraiment je peux répondre à votre question.
Ah, vous pouvez passer directement à la fidélité, alors. Hein.
Mais en tout cas, non. Elle vit, donc, en tant que veuve aussi, elle est habillée d'une certaine façon. Et elle vit dans, non seulement elle est veuve, mais on nous dit qu'elle pratique bien tous les commandements et elle fait des jeûnes, des pénitences. Enfin, on voit vraiment que c'est une personne qui, disons, elle profite pas de sa beauté, disons, pour passer une vie de plaisir. Voilà, c'est pas, disons, si elle va charmer Holoferne et le...
C'est une beauté au service de la gloire de Dieu.
Oui, voilà. Hein, c'est pas pour elle, mais c'est vraiment, elle est au service de son peuple. Et donc, on la voit aussi, donc on disait sa fidélité, c'est la fidélité par rapport au Seigneur, c'est-à-dire qu'on voit que dans toute sa vie, elle est pour les autres. Elle n'est pas pour elle, mais elle est pour les autres. Et donc là, ça montre, pour le peuple d'Israël, c'est un enseignement, et pour nous aussi encore aujourd'hui, de voir que une personne qui, en principe, n'aurait pas la possibilité de faire ce qu'elle a pu faire, parce qu'elle est veuve, donc elle n'a pas d'autorité, finalement, c'est ça, c'est suivant comment elle se situe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne pense pas à elle, elle ne se lamente pas sur son sort d'être veuve sans enfant, mais elle va mettre toute sa vie au service du peuple. Et donc, finalement, elle va donner vie à son peuple. Et donc, c'est une vie qui semblerait une vie qui se s'ouvre sur un échec, devient une vie qui porte des fruits.
Peut-être à propos de sa fidélité, on peut dire que même à Holoferne, elle lui signifie qu'elle souhaite être fidèle à son Dieu.
Oui, oui, oui. Et c'est ça qui est ironique.
Racontez peut-être
ironique,
ce
et un peu paradoxal, hein, oui. Parce que elle va, quand elle arrive dans le camp ennemi, elle va lui dire, elle lui cache pas qu'elle est juive, et elle cache pas non plus qu'elle croit. Et donc c'est vraiment une ironie énorme, parce que Holoferne, il voulait au service de Nabucodonosor soumettre tous les peuples à l'adoration de Nabucodonosor, et elle lui dit qu'elle va être fidèle à son Dieu, et que elle va sortir de temps en temps du camp pour aller prier, parce qu'elle a besoin, et elle dit, je ne peux pas manger n'importe quoi, je dois manger la nourriture, enfin elle ne dit pas cachère, mais enfin, elle doit manger la nourriture suivant ce que lui dit son Dieu.
On se dit, quand on lit ça, quand même, qu'elle devait vraiment être très belle, c'est pour qu'il ne fasse rien derrière.
Oui. Oui, donc, alors après, on est aussi dans l'exagération, puisque c'est un récit donc, qui est un peu comme dans une caricature, donc, qui nous montre, exagère les traits pour bien montrer comment on peut s'en sortir. Et donc, si le peuple qui vivait au temps des Séleucides, où il disait on n'a plus d'espoir de s'en sortir, c'est un livre qui va leur donner espoir, et qui peut donner aussi espoir à d'autres époques. C'est-à-dire, c'est pas quand on est dans une situation où on pense qu'il n'y a aucune issue possible, le Seigneur trouve une issue. Et surtout, si on est à l'écoute du Seigneur, on est dans la fidélité au Seigneur, alors c'est le chemin ouvert est possible. Comme quand le peuple sort d'Égypte, il se trouve devant la mer, devant il y a la mer, derrière l'armée égyptienne qui se rapproche. Il n'a aucune issue possible, mais le Seigneur ouvre les eaux et il peut marcher. Et donc c'est une autre époque avec une femme et elle montre, cette héroïne montre cela. Donc l'important, ce n'est pas qu'elle ait coupé la tête d'Holoferne, disons l'acte qui est violent en soi, mais c'est...
C'est qu'elle risque sa vie.
Elle risque sa vie.
Pour que les autres aient la vie.
Voilà, oui. Et c'est ça. Et donc, ce qu'elle fait, ce n'est pas la violence contre tous les autres, mais elle va à la tête. Comme ça, c'est la tête qui commandait le mal. Et donc, le mal ne va plus exister. L'armée va être dispersée.
Judith, donc, Judith, remake au féminin de David contre Goliath, c'est donc, pour l'interrogation, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église pour cette émission, donc qui fait partie d'une série annuelle, Les Femmes dans la Bible, série de conférences qui sont données à l'Institut catholique de Toulouse par la faculté de théologie. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve dans quelques instants pour finir ce parcours biblique.
Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, quatrième, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'une des missions d'une série annuelle, donc en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse et avec la faculté de théologie, série de conférences bibliques sur le thème Les femmes dans la Bible. Et nous sommes avec vous, Bernadette Escaffre, vous êtes donc, pour ceux qui nous rejoindraient, bibliste, ancien professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse, tant à la faculté théologique qu'à l'IERP, l'Institut d'études religieuses pastorales. On cite les deux comme ça. Il n'y a pas de jaloux. Et puis ça dit aussi, ça rappelle comme ça, les gens ont en tête ces deux lieux de formation de l'Institut catholique de Toulouse, ouverts au grand public, il faut le dire. Alors, le thème de ce matin, c'est donc cette figure de Judith. Dans votre titre, « Remake au féminin de David contre Goliath », point d'interrogation, vous posez donc une question, on va essayer d'y venir maintenant. Cette manière de faire des parallèles dans les Écritures, peut-être, c'est une des manières... souvent, quand on reçoit des biblistes, ils passent leur temps à faire des parallèles dans l'Écriture. C'est quoi? C'est un bon réflexe à acquérir, Bernadette Escaffre, pour rentrer dans l'intelligence des Écritures?
Oui, je pense que c'est une bonne chose, parce que on ne lit pas les... Non, je disais, la Bible, c'est un livre, mais des livres. Et les livres, ils ne sont pas... même quand on est attentif à un livre, il ne faut pas oublier que ce livre-là, il est dans un autre livre qui est plus grand, et donc il n'est pas indépendant. Et donc il y a des choses qui s'éclairent l'une par l'autre. Quand on écrit le livre de Judith, celui qui l'écrit, il a toute une tradition à sa portée et dans sa foi, et donc il ne peut pas la mettre de côté. Et donc, il y a quelquefois des parallèles qui sont faits, des clins d'œil qui renvoient à d'autres passages de la Bible.
Alors, ce parallèle, donc, vous voulez le faire donc, avec David contre Goliath. Allez, si on part du principe que tout le monde ne connaît pas, rappelez-nous cette histoire, David contre Goliath.
Alors, David contre Goliath, oui.
Qui est tellement connu que c'est presque sorti de la Bible. Mais
oui, c'est vrai. Donc, on pense à David qui avait une simple fronde, et avec une fronde, il va envoyer une pierre dans la tête de Goliath. Goliath, c'était le guerrier, un des guerriers des Philistins, et un peu particulier puisqu'il mesurait par exemple 2,80 m, et il avait des caractéristiques. Enfin, c'était un géant, il était fort, et tout le monde avait peur de lui. Et personne aurait osé s'attaquer à lui. Et d'ailleurs, Goliath avait, pour défendre son peuple, il avait dit je propose, disons, un pari, et que celui qui veut s'attaquer à moi, il vienne, et s'il gagne, ben, j'aurai perdu, quoi. Enfin, tout le peuple aura perdu. Enfin, je le dis avec mes mots ici. Et donc, ce Goliath, tout le monde avait peur de lui. Il était plus fort que tous, donc on pouvait pas le vaincre. Et c'est David, un petit berger, qui va le vaincre. Et donc il va le vaincre avec ses armes, c'est-à-dire plutôt ce sont des armes défensives, c'est-à-dire la fronde qu'il utilisait pour défendre ses brebis qui étaient quand il y avait des bêtes féroces qui voulaient les attaquer.
Alors, c'est physiquement avec ça qu'il va gagner, oui. mais il gagne aussi, un peu comme Judith, je ne sais pas si on peut commencer par ça, parce que c'est un homme qui met sa confiance en Dieu.
Oui, exact, oui. Et alors, d'abord, David, il a reçu l'onction. Et là, on est à une époque du peuple dans lequel toutes les différentes tribus qui étaient en terre promise, elles ont vécu l'époque qu'on appelle l'époque des juges, où chacune tribu était dans son héritage, et elles étaient unies par une même foi. Mais il arrive un moment où les tribus, elles disent, mais non, nous on veut être comme les autres populations, comme les autres peuples, avoir un roi. Et donc elles veulent avoir un roi, et Dieu ne veut pas. Mais finalement, elles insistent tellement que le Seigneur voit que la chose n'est pas mûre. il dit, me rejette finalement, parce que c'est Dieu qui devrait être le roi du peuple, mais le peuple ne le veut pas. Il veut un roi plus concret, voilà, pour régner sur eux. Et donc le Seigneur, qui agit au fond comme un père qui veut aider son fils à cheminer, à grandir, et il ne veut pas en faire un esclave, mais un homme libre. Et donc il va accepter qu'il y ait un roi en Israël. Il va choisir David. Donc il y avait l'histoire de Saül, mais on ne peut pas la raconter aujourd'hui, donc on laisse de côté. Et David va être choisi, il va être oint par Samuel, et il va être donc reconnu comme celui qui va avoir l'onction. Et il est encore... Donc,
on peut dire que Dieu choisit justement celui qu'on n'attendait pas quand même.
Oui, voilà, puisque donc il avait d'autres frères, David, qui étaient plus grands que lui. Et lui, c'était le petit qu'on envoyait au troupeau alors que ses frères étaient déjà en âge de combattre, et ils étaient des soldats, quoi. Et donc le Seigneur, il va chercher David, et c'est David lui-même donc qui va affronter Goliath. David le propose, et David, il y va avec sa foi dans le Seigneur, et donc il va vaincre Goliath, non pas avec ses propres forces, David. Avec la fronde, il va envoyer une pierre dans la tête de Goliath, et Goliath va s'effondrer. Et donc, une fois qu'il est par terre, il va prendre l'épée de Goliath et il va lui couper la tête.
Alors, le parallèle avec Judith, ce n'est pas seulement, donc, dans les deux cas, il coupe la tête à l'adversaire. Mmh. Dites-nous quel parallèle vous faites et pourquoi vous dites que c'est remake au féminin de David contre Goliath, et puis peut-être aussi la portée de ces deux textes.
Oui, alors, on est dans une situation autant Judith que David, il y a quelqu'un dans le peuple ennemi qui veut la destruction d'Israël. C'est quelqu'un qui fait peur à tout le monde. Et donc, d'un côté on a Holoferne et de l'autre Goliath.
Goliath, oui. Okay.
Oui, Goliath. Et donc c'est tout le monde a peur et personne ne peut l'affronter. Et donc c'est d'un côté Judith, de l'autre David, ou plutôt dans l'ordre chronologique, plutôt David, d'abord David et puis Judith, qui vont s'affronter avec celui dont tout le monde a peur. Mais ils vont pas l'affronter avec la force, puisqu'ils ne l'ont pas, ni Judith, ni David.
Et ils en ont conscience chacun.
Ils en ont conscience. Et donc ils vont plus avec la confiance dans le Seigneur, mais leur confiance dans le Seigneur, c'est pas simplement « Seigneur, j'ai confiance en toi, tu agis, moi je fais rien ». Ils agissent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'ils font, c'est peu par rapport à ce à quoi on s'attendrait. Pour vaincre une grande armée ou pour vaincre un géant philistin, il fallait beaucoup de force. Mais eux, ils vont le faire d'une autre façon. Et donc, ils vont s'arranger pour, finalement, d'une autre façon, avec non pas avec des armes, pouvoir le vaincre. Et finalement, c'est assez symbolique aussi, le fait qu'ils lui coupent la tête, non pas avec leur propre arme, mais avec l'arme...
Alors expliquez-nous pourquoi, parce que vous m'expliquez ça un petit peu hors antenne, j'ai pas complètement compris la... Au final, ils utilisent une arme, c'est ça qui est important, non, quand même?
Oui,
c'est...
ils utilisent une arme, mais c'est pas la leur. C'est l'arme de l'ennemi. C'est l'arme...
Donc c'est la violence
Judith.
De l'ennemi qui se retourne contre lui, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà. Judith, elle prend l'arme d'Holoferne et elle va lui couper la tête. Et David, il va prendre l'arme de Goliath et il va faire la même chose, lui couper la tête à Goliath. Et donc, c'est comme si, finalement, celui qui a pris l'épée, finalement, il meurt par l'épée. Ce que Jésus disait aussi à ses disciples. Judith n'est pas allée dans le camp ennemi avec la violence et la force, et en prenant des soldats avec elle et tout ça. Et elle-même, elle n'était pas armée. Elle n'avait pas d'armes. Donc elle y va avec sa
détermination, faiblesse. Quand même. Sa faiblesse, mais sa détermination.
Oui, voilà. Elle est déterminée dans sa foi dans le Seigneur, dans le fait qu'elle veut vraiment libérer son peuple, que son peuple ne meure pas. Mais elle n'y va pas avec la violence. La violence, elle va prendre l'épée de l'ennemi, du guerrier, et qui va finalement, c'est comme si l'épée se retournait contre celui qui voulait le mal. Et ce geste-là, c'est pas l'éloge de la violence, mais c'est le fait de dire on ne peut pas pactiser avec le mal et dire bon, il faut laisser faire. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Et donc, elle le fait de cette façon. Et en tuant Holoferne, elle arrête toute cette...
Alors, dernier parallèle, justement, c'est à chaque fois, c'est la portée de ce geste.
Oui, voilà.
Finir par
oui,
ça.
Oui. Et Goliath aussi. Donc, c'est quand il est... à partir du moment où il est devenu inoffensif, il est mort. Et donc, le peuple philistin ne peut plus, s'en va. Et donc, le peuple de... le peuple donc de David, enfin, et vraiment il va être sauvé, quoi. Ils vont pas être exterminés, et donc c'est pas seulement le faible qui gagne le fort, mais c'est, et dans le cas de David c'est clair, c'est le berger qui gagne le guerrier. Et donc la royauté de David va s'appuyer, ou devrait s'appuyer sur ça, c'est-à-dire c'est vraiment le roi à Jérusalem, ce doit être le roi qui est berger de son peuple et pas celui qui est guerrier. Et dans le cas de Judith, c'est, on est à une autre époque, il y a justement, il n'y a plus la royauté. en Israël. Et donc là, à une époque où on est à l'époque de l'Empire grec, là, c'est une femme, une veuve, qui va sauver son peuple.
Mais alors, il y en a d'autres, ça, on n'en a pas parlé. Vous faites aussi des parallèles, donc Déborah, Esther, Ruth. Dans l'Ancien Testament, pour reprendre le titre donc de la série de conférences annuelles de la faculté de théologie, les femmes dans la Bible. Donc, il y a aussi des femmes qui sont les bergers d'Israël, Bernadette Descaf, dans le fond.
Oui, c'est vrai. Enfin, chacune a sa façon, mais il y a des points communs dans le fait que c'est des femmes qui se trouvent dans des situations et qui vont, par exemple, si on pense à Esther, dans le livre d'Esther aussi, où son peuple était destiné à l'extermination, et elle intervient, non pas en pensant à elle, mais aussi elle risque sa vie pour sauver son peuple.
Bernadette Escaffre, en cette fin d'émission, on vous a entendu donc avec beaucoup d'intérêt pour nous aider donc à rentrer dans ce livre des Écritures, donc le livre de Judith. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est une question donc je pose aussi aux autres invités à l'occasion de cette série d'émissions à partir de ces conférences bibliques sur les femmes dans la Bible. Un conseil pour les néophytes que nous sommes en matière de lecture biblique. On peut se sentir un peu intimidé ou découragé. Quels seraient vos deux, trois conseils clés pour se lancer?
Ben moi, je pense de toute façon que c'est bon de se plonger dans la Bible, que chacun lise. Et là, dans la lecture, on apprend beaucoup. Dans la relecture même. Il y a des choses qu'on ne comprend pas au premier abord et après, ça prend vie et on les découvre et on approfondit davantage. Alors après, au niveau pratique, peut-être, bon, il y a d'abord les conférences, peut-être aussi, qu'on peut, les conférences bibliques, là, qui peuvent nous donner des orientations. Et puis, je citerai peut-être les cahiers évangiles, donc peut-être parmi vous qui nous écoutez, il y en a qui connaissent déjà les cahiers évangiles. Cahiers évangiles, ce sont des éditions du CERF et du Service Évangile Biblique, qui ont des numéros qui paraissent plusieurs fois par an. Et dans la liste des cahiers évangiles, il y a des cahiers qui parlent d'un livre biblique et d'autres de thèmes bibliques. Et donc c'est intéressant, on n'est pas obligé de lire tout, mais à l'occasion peut-être en prendre l'un ou l'autre et on a des orientations. On est orienté dans une lecture de tel livre biblique ou dans un thème biblique. Et puis après, ce qui est important, mais je le redis, c'est de lire, lire, lire et relire. Et c'est là qu'on se nourrit. C'est une parole qui nous nourrit.
Eh ben merci beaucoup Bernadette Escaffre d'être venue ce matin au micro de Vivante Église. Prochaine conférence biblique donc de ce cycle Les femmes dans la Bible, ça sera donc le 13 avril prochain sur le Magnificat. Ça sera donné donc par le père Cyprien Comte et on imagine que la femme en l'occurrence ça sera la Vierge Marie. Un grand merci à vous. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.